Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une histoire de la révolution espagnole de 1936, de la genèse historique de cette révolution jusqu'à son écrasement, et particulièrement en Aragon et en Catalogne, et en lien avec le communisme libertaire là-bas. On parlera particulièrement, tout en rappelant brièvement l'histoire plus générale de l'Espagne et de sa guerre civile, du communisme libertaire, de son histoire espagnole, de sa mise en route en Aragon en 1936-1937 jusqu'à son écrasement en 1937-1938, de l'autogestion et des luttes qui ont précédé la révolution au sein des usines catalanes, des évolutions politico-idéologiques et stratégiques de la CNT, de la dite violence révolutionnaire et de l'écrasement contre-révolutionnaire de 1937 à Barcelone et en Aragon, et d'autres sujets du même ordre. Pour nous raconter cette longue histoire, nous sommes avec les gyménologues Vincent et Myrtille, auteurs de « Les fils de la nuit, souvenirs de la guerre d'Espagne », paru précédemment aux éditions L'Insomniac en 2006, et qui va ressortir d'ici quelques jours ou quelques semaines, aux éditions Libertalia, et auteur également d'un inédit, A Zaragoza o al Charco, Aragon 36-38, récit de protagonistes libertaires, qui sort ces jours-ci aux éditions L'Insomniac. Et ils sont par ailleurs animateurs du site gyménologue.org qui non seulement reprend des documents, des témoignages qu'ils ont pu mettre dans leurs livres ou ailleurs, mais également il y a pas mal d'articles qui approfondissent certains points dont on va parler dans l'émission, notamment un article sur l'anticapitalisme des anarchistes et des anarcho-syndicalistes en Espagne dans les années 30. Voilà, un certain nombre d'articles éventuellement dont on parlera. Alors du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est le communisme libertaire, mais particulièrement dans son histoire espagnole, et parler un petit peu de l'émergence du communisme libertaire en Espagne et de ses formes spécifiques, éventuellement des connexions qu'il a trouvées avec les rapports sociaux tels qu'ils existaient en Espagne à la fin du 19e siècle.
Oui, il y aura beaucoup de choses à dire entre la rencontre de l'anarchisme et des classes populaires espagnoles. On peut poser juste quelques jalons parce que sinon on peut y passer beaucoup de temps. On peut déjà illustrer par une citation de Franz Borkenau, cet Autrichien qui est venu, qui est arrivé en Espagne au moment de la Révolution espagnole et qui a fait le constat suivant.
La révolte des masses espagnoles ne fut pas un combat qu'elles menèrent pour améliorer leurs conditions de vie dans le cadre d'un système capitaliste admiré, mais un combat contre les premières manifestations d'un capitalisme honni. Quelles que soient les concessions faites dans les dernières décennies aux nécessités du progrès industriel, Le travailleur espagnol ne s'est jamais résigné, comme ses collègues anglais et allemands, à n'être qu'un simple employé de l'industrie. L'exigence américaine d'un toujours plus matériel est chose inconnue en Espagne. La tradition de lutte contre l'oppression, la mentalité du brigand qui abandonne son village pour vivre libre, est infiniment plus vivace en Espagne que celle du syndicaliste acceptant de longs mois de grève en échange d'un peu plus d'aisance matérielle. C'est pourquoi le recours à la violence n'est jamais écarté a priori par les masses espagnoles, qui jugent au contraire suspecte l'action syndicale pacifique. Pour me résumer, je dirais que ce qui heurte la conscience du monde ouvrier et paysan espagnol, ce n'est pas l'idée d'un capitalisme qui se perpétuerait indéfiniment, mais l'apparition même de ce capitalisme. Telle est pour moi la clé de la position privilégiée de l'anarchisme en Espagne.
Voilà, ce commentaire, cette analyse de Franck Borcono est très riche. En même temps, il faut considérer quand il la conçoit en 1936, il décrit un processus en train de qui a déjà changé. Il décrit une genèse et une rencontre qui date en gros du milieu du 19e siècle. Mais on y reviendra en 36 et en 37, ce tableau-là a déjà changé. Mais pour lui qui vient d'une Europe industrialisée avec un mouvement ouvrier déjà bâillonné, ligoté, lui, l'Espagne, c'est un terrain extraordinaire, un terrain d'expression extraordinaire. Quoi. Il disait, eh ben, c'est nous avant, il y a déjà fort longtemps. Ça provoque chez lui un enthousiasme et chez beaucoup d'autres un très grand enthousiasme, d'autant plus que dans en 36 le reste de l'Europe, le fascisme est en Allemagne, en Italie, un peu partout, et l'Espagne reste le terrain de grand espoir quasiment universel. C'est pas pour rien que beaucoup de gens se précipitent là-bas. Je trouve intéressant de revenir sur cette rencontre entre l'anarchisme Fanelli qui vient en Espagne, un Italien, qui rencontre quelques intellectuels espagnols qui se posent des questions, et la rencontre entre les théories Bakounine et ces personnes-là se fait immédiatement malgré les langues différentes. Ça démarre très très vite, quoi. Et sur le terrain, ça démarre très vite entre ces théoriciens-là, ces doctrinaires-là, et des luttes de quartier, des luttes populaires intensément, spontanément anticléricales, antimilitaristes, anti-étatiques. Donc, c'est des gens qui sont déjà sur un terrain très propice aux idées anarchistes, et c'est pas le marxisme qui va se développer là-bas. Pas du tout, vraiment pas du tout. Donc, en 1830-1860, il y a des petits groupes qui se constituent, des groupes d'affinités, des groupes de quartier, des groupes d'intellectuels, d'artistes. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'anarchisme individualiste, qui se mélange à la vie des quartiers, qui se mélange à des familles ouvrières, qui se bagarrent tous les jours dans des situations contre la guerre du RIF, contre les conditions de logement, contre les conditions de travail. Mais c'est des familles entières qui se bagarrent là. C'est pas que les luttes ne sont pas circonscrites au lieu de travail. Les luttes sont dans la rue, dans les quartiers, dans les relations entre les gens. Et c'est là que cette rencontre se fait. Pour les gens qui ont envie de se plonger là-dedans, je recommande vraiment vivement le livre de Chris Elam, La lucha por Barcelona, qui est paru en espagnol, et dont une petite équipe de Toulouse, le CMDE, ces petits éditeurs de Toulouse, ont publié deux gros articles il y a un an. Et j'espère que ça va se développer, parce que le livre de Chris Elam et tous les articles de Chris Elam sont très très riches. Ils se renseignent directement dans les journaux de l'époque, dans les archives, dans les documents. C'est vraiment un travail énorme. Et lui, il le résume comme ça. J'ai voulu étudier la culture de résistance à l'éthique du travail et au rituel quotidien de la société capitaliste dans une ville comme Barcelone. Et je rappelle que Barcelone, dès le milieu du 19e siècle, c'est le centre industriel de l'Espagne. La Catalogne est le centre industriel de l'Espagne et Barcelone, sa capitale. Et c'est là que va naître un mouvement ouvrier très, 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 très battant. Alors, quand Elam fait allusion à une éthique du travail une mentalité contre l'éthique du travail, ces gens-là, ils parlent de gens qui défient la bourgeoisie. La lucha por Barcelona, c'est la lutte pour la ville. C'est-à-dire que cette population-là des quartiers ouvriers, l'éthique de la ville est autant à elle qu'à la bourgeoisie et qu'il n'y a pas de raison de lui laisser la place. Donc, ce n'est pas qu'une lutte sur les conditions de travail, ni le fait qu'on doive se salarier, bien que ce soit l'indignation suprême, parce que le salariat est très mal considéré en Espagne. Mais c'est aussi une lutte pour conserver son mode de vie hors des lieux de travail, c'est-à-dire un rapport au temps, un rapport à comment on organise sa vie, son temps, etc. Et on voit bien qu'une partie des combats de la bourgeoisie va être de réduire déjà cette façon de vivre dans les rues du quartier de Barcelone. C'est-à-dire que les gens, comme ils disent eux-mêmes, on va rationaliser la vie des gens pour leur bien, mais on va rationaliser leur gestion du temps. C'est dit quasiment en toutes lettres par les architectes de cette époque-là. Ils ont eu plusieurs plans de transformation de Barcelone. Et on va essayer de contraindre ce quartier ouvrier en plein cœur de Barcelone qui s'appelle le Raval. On va le criminaliser, le dépecer, le découper, faire en sorte que ce quartier-là perde de sa force d'opposition au développement du capitalisme, qui de toute façon va très lentement parce que en Espagne, effectivement, on n'est pas dans un pays qui va voir se développer un capitalisme avec une bourgeoisie dynamique, etc. C'est pas tout à fait ça. Le capitalisme est essentiellement étranger, les Américains, les Anglais, les Allemands. Le textile, beaucoup d'usines textiles à Barcelone sont tenues par des étrangers. Voilà, on est aussi dans une situation particulière en Espagne où le capitalisme n'est que dans sa première phase de développement, ce qu'on appelle la domination formelle du capitalisme. Donc par rapport au reste de l'Europe, il y a un décalage. Alors, les bagarres vont se mener dans cette ville à tous les niveaux. Dans les usines pour les conditions de travail, contre les loyers, il va y avoir des grèves de loyers, contre les manques, les pénuries, les famines, on va attaquer des magasins, les piller, etc., etc. Il y a vraiment une richesse d'activisme et de résistance au timing du mode de vie capitaliste. Et il y a aussi, d'un autre côté, une volonté de s'éduquer, de lire, de propager des façons de penser, etc. Et ça, c'est un mouvement extraordinaire organisé par les groupes affinitaires de quartier qui vont créer des athénéos, qui vont pratiquer qui vont inciter à devenir autodidacte. Chaque ouvrier est incité et encouragé à devenir autodidacte. On voit même des gens qui habitent dans des bidonvilles de Montjuïc, dans des conditions misérables, qui pensent toujours à installer une table et une chaise pour leurs gosses pour qu'ils apprennent à lire et à écrire. Tout ça parce qu'aussi l'éducation est maintenue à bout de bras par le clergé, par l'Église. Il y a un refus dans le mouvement ouvrier que les enfants aillent dans ces écoles-là s'ils peuvent l'éviter. De toute façon, la plupart du temps, ils n'en ont pas les moyens. Ou en tout cas, ils contournent la question par ce biais-là, par les athénéos, les bibliothèques et les lieux, l'aide à l'alphabétisation spontanée, quoi. Dans les campagnes, il faut aussi considérer deux situations. Il y a les villages, les petits villages, par exemple en Aragon ou dans le nord de l'Espagne, où l'anarchisme est plus ou moins diffusé. Mais là, c'est un peu plus difficile parce que dans un village, tout le monde voit tout le monde. Dans celui qui ne va pas à la messe, déjà, ça se présente mal pour lui. La caserne de la garde civile, elle est au centre du village, elle contrôle tout le monde. Les gens qui font grève, la plupart du temps, ils sont obligés de s'exiler, d'aller se planquer. Ceux qui ne trouvent pas de travail, puisque les conditions de travail sont, des ouvriers agricoles en tout cas, sont très difficiles. Donc la plupart, un fils sur deux, il part à Barcelone. Et quand il revient, il ramène des idées anarchistes. Donc tout ça, c'est pas la même chose que dans les quartiers, quoi. Hein, dans un petit village espagnol ou aragonais, c'est autre chose. Après, il y a par exemple les grandes régions latifondières d'Andalousie, où là, c'est le mode d'exploitation de l'ouvrier agricole, le journalier, qui domine. Et là, les conditions de bagarre sont beaucoup plus dures, quoi. Parce qu'il ne sert pas grand-chose de faire grève pour eux, puisque dès qu'un mec ne vient pas bosser, ben, y en a un autre qui est là sur la place à attendre qu'un patron veuille bien le prendre. C'est des conditions là, beaucoup plus rudes d'affrontement.
Et du coup, ça donne deux formes d'anarchisme qui sont assez distinctes entre les usines catalanes à un pôle un peu extrême et de l'autre côté, ce que tu appelles l'anarchisme un peu communaliste et ruraliste.
Voilà, alors il se croise plusieurs modes un peu différents de se battre contre le système et puis de projets vaguement idéalisés qui est en tête. Et pour cela, c'est intéressant de revenir à l'Organisation internationale des travailleurs et avec ce qui va se passer vers 1876. En 1869, le collectivisme domine la thèse collectiviste, c'est-à-dire que chaque ouvrier est dans un système post-capitaliste, on considère qu'il sera rémunéré en fonction du travail qu'il a produit. C'est-à-dire on continue à évaluer le temps de travail qu'il a effectué. Et il va y avoir ça c'est Bakounine, c'est la base un peu la position de Bakounine, des Bakouniniens. Et Kropotkine, Élisée Reclus, Malatesta, au fur et à mesure de ces années-là, des discussions assez vives commencent et ils estiment que ça peut pas faire. Il faut, d'une part, ça devient très compliqué dans le monde industriel de calculer le temps de travail d'un ouvrier. Et ensuite, ils estiment que c'est pas souhaitable du tout. Parce que quelle est l'instance qui va commencer dans une société post-industrielle à calculer ça? Ils estiment que non, on prend trop le risque de reconduire les modalités du système capitaliste, qu'il faut en finir avec la quantification du travail effectué par un ouvrier. On s'occupe uniquement de ce dont il a besoin. Donc eux, ils proposent au lieu de la formule à chacun selon son travail, ils disent non, ça va être à chacun selon ses besoins. Et puis ça suffit bien comme ça. Donc là, le débat va mener sa vie. Et en gros, en 1876, l'AIT considère qu'on va prendre cette option-là. Et paradoxalement, par rapport à ce qu'on connaît de l'histoire de son rapport au communisme libertaire, l'Espagne va traîner les représentants de la FRE, c'est-à-dire la Fédération Régionale Espagnole, où il y a deux grosses entités, le mouvement catalan, la section catalane et la section andalouse, vont se chamailler encore très très longtemps là-dessus. Et il faut attendre 1919 au deuxième congrès de la CNT pour que le communisme, ce qu'on appelle le communisme libertaire à ce moment-là, soit vraiment entériné, adopté. Entre-temps, la dispute dont va se mener entre les collectivistes, les tenants de à chacun selon son travail, et ce qu'on appelait à l'époque les anarcho-communistes, les partisans de à chacun selon ses besoins. Voilà. Et dans ça, eux, c'est les ancêtres de ce qu'on appellera ensuite le communisme libertaire.
Et du coup, est-ce que ça... Enfin, cette distinction, elle recoupe partiellement, mais pas complètement, une autre distinction entre, du coup, ce qu'on pourra... Enfin, les deux formes un peu dominantes, les anarchistes ruralistes qui vont plutôt se retrouver en Aragon... et les anarcho-syndicalistes avec la fondation de la CNT en 1910, si je me souviens bien, en Espagne.
C'est ça. Effectivement, ça se recoupe. On ne peut pas aligner une position et une autre sur ce qu'on appelle le mouvement anarchiste classique, pur, apolitique, communaliste, individualiste, basé sur des groupes dont le fondement est le groupe d'affinité. On ne peut pas aligner tout ça comme ça, hein, mais ça se croise, tout ça se croise. Tant et si bien qu'au congrès de mai 36 de Saragosse, qui adopte la motion sur le communisme libertaire, ils disent bien deux manières de vivre, de concevoir la vie et la vie post-capitaliste s'agitent à notre sein. On va essayer de répondre à ces deux manières. Donc jusqu'en 36, on considère que l'anarchisme est composite. Mais en tout cas, avant 1910, ce qu'on appelle l'anarchisme, effectivement, c'est le groupe d'affinité, l'anti-État, le respect de, la toute puissance, respect dû à l'individu, et le projet de communisme, c'est-à-dire de se centrer sur la commune rurale. C'est elle qui doit être l'épicentre d'un nouveau mode de rapports sociaux. Alors, je vais faire une citation.
Entre-temps, je peux peut-être faire une petite précision, c'est que avant les années 30, on peut dire aussi qu'il y a une certaine distinction à faire justement entre l'anarchisme et l'anarcho-syndicalisme. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux sphères ne sont pas complètement mélangées, ce qui va être le contraire après dans les années 30, où finalement on va assister à une sorte de fusion, disons, sous le contrôle de l'anarcho-syndicalisme et de la CNT, on va assister à une sorte de fusion, pas complète, mais disons dans une grande partie, de ces deux sphères. Mais avant les années 30, on peut dire qu'il y avait encore un courant anarchiste pur et qui refusait d'une certaine façon de passer par le syndicalisme. Et cet anarchisme était très développé justement dans les campagnes, par exemple dans les campagnes andalouses, où il y avait une sorte de dimension un peu millénariste qui s'exprimait chez ces paysans andalous. Et donc ça, cet anarchisme-là, lui-même était... bon, étant très critique et en appelant à une sorte de révolution immédiate, utilisant même éventuellement la tradition du pronunciamiento, c'est-à-dire avec cette idée qu'on sort, on dit qu'on veut quelque chose et on imagine que la réalité va se plier à nos désirs. Cette espèce de grand élan ne permettait pas véritablement de constituer un mouvement organisé, puissant sur la durée. Et c'est ce qui explique, par exemple, que la CNT n'était pas très implantée dans les campagnes.
Alors, par exemple, je vais citer... On n'hésitera pas à beaucoup citer les gens de l'époque, parce que c'est très parlant. Et c'est pour montrer qu'on n'interprète pas trop, on se fixe. On suit vraiment ce que les gens disaient à l'époque dans leurs textes, la presse libertaire, etc. C'est suffisamment clair pour être mérité d'être cité, quoi. Alors, par exemple, les partisans du communalisme, je cite, sans citer les auteurs, mais je cite des extraits, disaient « La garantie d'un non-retour du capitalisme réside dans une vie économique agricole et industrielle, décentralisée, disséminée sur toutes les communes, grandes et petites. » Un autre disait dans Tierra y Libertà, en 1931, « Nous proposons au monde ouvrier le retour à un monde perdu, la commune libre. Et à partir de cette base naturelle, véritable ciment de la biologie sociale, nous structurerons la vie nouvelle à partir d'une répartition des instruments mécaniques réellement utiles, en reliant le développement agricole des communes à ses dérivés industriels, en fonction des besoins locaux. Il s'agit d'une industrialisation strictement restreinte aux produits qui vont avec une vie simplifiée, où les besoins de l'esprit ont davantage d'espace et de temps. » Donc voilà, malgré cet aspect bande perdue, naturel, etc., bon, on peut le discuter, mais on voit vraiment que c'est pas plus, comment dire, c'est pas fondamentaliste. On retient cette base-là qui est importante, le pueblo, le village, le rapport à la terre. Mais on veut bien accepter le progrès. Donc, il faut combiner tout ça. Par contre, ils avaient une condamnation assez sévère de la vie en ville, du travail industriel, des conditions du travail industriel, du temps, comment la mécanisation des gestes. Avant même que l'industrie soit très, très développée en Espagne, ils avaient vraiment la conscience très nette que là, on perdait sa dignité d'homme. Le salariat, déjà dans le salariat, et alors le salariat industriel, c'était vraiment le comble de tout. Donc, il faut revenir à la campagne, mais on va essayer de mitiger l'ancien et le moderne. La technique, on n'est pas forcément contre, mais il faut voir, il ne faut pas non plus se laisser embarquer là-dedans. Et on essaie de créer ce qu'ils appelaient l'agro ciudad, la ville-campagne. Des endroits où il y aura un peu d'industrie, très décentralisée, utile à ce cas. Et puis, toujours avec l'idée qu'on travaillera moins comme des bêtes qu'on l'affiche jusqu'à présent. Ça, c'est très prégnant dans leur esprit, travailler moins. Il y a pas la valorisation du travail n'est pas à l'œuvre là, sur ce terrain-là, ça c'est clair et net.
Et du coup, puisque là, on a pas mal parlé du mouvement anarchiste espagnol, comment est-ce que... est-ce qu'on peut donner peut-être un... Évidemment, il est en phase avec un certain développement du capitalisme. Donc, l'Espagne est une monarchie jusqu'en 1931, avec après quand même une première phase un peu de libéralisation au 19e siècle.
Il y avait une première république en 1873, mais qui avait duré un an. Voilà. Et après, il y a eu restauration de la monarchie.
Et puis, il y a eu un moment aussi la désamortisation, c'est ça ?
Oui.
Sur effectivement la dépossession des...
Enfin, c'est en remontant un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, c'est au début du 19e siècle. C'est-à-dire que c'est, disons, à peu près dans les années 1830 qu'il y a un mouvement de libéralisation très influencé par les Français. et à ce moment-là, il va y avoir un mouvement, disons, de où la bourgeoisie libérale, pour constituer son pouvoir, va essayer de mettre, en fait, en gros, va mettre en vente des terres qui jusque-là n'étaient pas aliénables et qui en grande partie appartenaient à l'Église. Et l'Église va se retrouver dépossédée d'une très très grande partie de ses terres, de ses possessions. Et c'est ce qui explique le fait que, à cette époque-là, l'Église pouvait avoir une petite dimension progressiste. Il y avait même certaines abbayes qui expérimentaient des sortes de collectivités horizontales et qui auraient pu éventuellement se relier à des expériences populaires paysannes. C'était quelque chose qui n'était pas complètement impossible. Et avec cette entreprise de récupération des possessions de l'Église, l'Église a amorcé un virage complètement réactionnaire, ultra réactionnaire, et elle n'en est plus jamais revenue.
Et de ce virage réactionnaire,
n'oublions pas une chose quand même, c'est que dans ce même mouvement des désamortisations, les libéraux vont piquer la terre des communaux.
Oui, aussi. Voilà.
Donc ça fout en l'air effectivement un petit équilibre qu'il y avait dans les campagnes entre, comme il y a eu dans toute l'Europe, hein, les petits paysans ou les ouvriers agricoles qui pouvaient toujours compléter les périodes difficiles avec ce qu'il y avait sur les communaux, hein, les forêts, les prés, etc. Et ça s'écroule, ça se démonte de plus en plus au fil du 19e siècle. Voilà pour ça que cet idéal du petit village, du village agricole, avait perduré longtemps, parce que, comme dans le reste de l'Europe, parce qu'on avait l'idée qu'au moins à la campagne, on arrivait toujours un peu à s'en tirer.
Oui, grâce aux communaux.
Et aux rapports sociaux horizontaux aussi, qui spontanément d'aide.
Émerger des communaux.
De petites choses mises en commun, etc. Même si la propriété privée ne bougeait pas.
Oui, bien sûr. Et du coup, effectivement, de cette évolution qui est vraiment spécifique à l'Espagne du capitalisme, avec des phases effectivement de libéralisation où, disons, l'Église est dépossédée de ses terres, et du coup, ensuite une phase de réaction, c'est aussi ce qui va donner lieu à cette espèce de grande alliance que va être le franquisme, ou presque plus le franquisme que le fascisme, parce que les mouvements proprement fascistes, comme la Falange, étaient une composante du mouvement, puisque dans le fascisme, il y a quand même l'idée d'une force un peu révolutionnaire, même si c'est une révolution d'extrême droite. Mais c'est vrai que là, c'est ce qui va faire une espèce de
Franco
de force...
va réussir à rassembler toutes les droites.
C'est ça.
Les droites espagnoles, mais la majorité, effectivement, c'est les grands propriétaires, c'est l'Église, c'est les rentiers, c'est vraiment la réaction pure, forcenée, cruelle, sauvage. Et avec ce mouvement fasciste, Primo de Rivera, mais qui, effectivement, qui d'ailleurs va être, bon, ça c'est une autre histoire, mais oui, mis un peu sur la marge après par Franco. Parce que, voilà. Mais c'est une autre histoire, je crois que si on rentre là-dedans,
ouais,
on va
sûr.
Perdre notre
bien sûr, ouais.
Petit fil.
Mais c'est du coup, effectivement, c'est pour souligner aussi que du coup, l'Église et les grands propriétaires terriens ont incarné à côté de la bourgeoisie et du patronat industriel un peu les ennemis de classe des classes populaires espagnoles, plus que dans d'autres pays.
Disons que la confrontation était directe entre des propriétaires et des possédants et une Église qui ne veut rien lâcher, et des classes populaires qui sont effectivement un peu pressurisées vraiment de manière extrêmement cruelle, implacable, quoi. Donc c'est un affrontement classe contre classe sans aucun intermédiaire. C'est direct, il n'y a pas beaucoup de classes moyennes en Espagne, ça se passe toujours de manière très frontale et très très dure. Il n'y a pas de quartier, surtout des côtés des possédants, et l'humiliation, mais surtout ils ont cultiver en Espagne un rapport d'humiliation vis-à-vis des ouvriers agricoles, des ouvriers d'usines, de tous les gens qu'ils avaient sur leurs bottes, que il pouvait y avoir que de la violence à un moment donné au bout de ça. Donc coup d'État violent, sauvage, et réaction organisée, plus ou moins organisée en face, et qui réussira à certains endroits, mais aussi avec pas mal de violence. Et on peut même dire qu'il aurait pu y avoir encore plus de violence que ça, vu les conditions dans lesquelles ces gens se retrouvaient.
Et le résultat, donc, du coup, c'est que l'histoire de l'Espagne est un petit peu l'histoire de la réforme agraire impossible. Hein. Beaucoup d'historiens ont noté ça. C'est-à-dire que du point de vue du capitalisme qui aurait dû pouvoir se développer en Espagne comme il s'est développé dans les autres pays européens, ce qui a manqué à l'Espagne, c'est une bourgeoisie qui assume son rôle historique, hein, on met tous les guillemets qu'on veut, et puis ce qu'il a manqué, c'est la constitution d'une véritable réforme agraire, puisqu'on sait que c'est par la réforme agraire que peut éventuellement se mettre en œuvre une première accumulation qui permet ensuite au capitalisme réellement de se constituer. Et en fait, en Espagne, la chose n'arrivait pas à se mettre en œuvre. Quoi.
Et quand, en 1931, la République rétablie propose une timide réforme agraire, c'est-à-dire on va demander poliment à certains gros propriétaires terriens de bien vouloir donner à la communauté quelques terres dont ils ne font rien, qui sera découpé en petits lopins pour que certains petits paysans ou ouvriers agricoles sortent niettes. Ça a été un branle-bas de combat à tous les niveaux, dans toutes les communes, dans tous les endroits d'Espagne. La réaction s'est réarmée. Et là, ça a été une intense, une guerre sociale déjà qui a redémarré, parce qu'il y en a eu, il y en a tout le temps. Mais là, c'est une phase, à partir de 1931, les droites, au moins, mais tout le monde, dans les villages, ça, la tension remonte et on voit des curés prendre le fusil, quoi, et des gens, des maires élus qui sont républicains se faire descendre. En Aragon notamment, on a suivi ça un peu de près, c'est une tension extraordinaire. Et de l'autre côté, les anarches qui mènent des bagarres, des insurrections, proclamation du communisme libertaire, mais qui n'aboutissent pas à grand-chose. Mais par contre, il y a une répression sauvage qui se passe sur eux, aux années 31, 32, 33, 34. Voilà. Et en ville, pareil, c'est les guerres sociales, les grèves repartent. Mais là, on a sauté juste un petit passage. Je voulais juste évoquer après, quand on a évoqué l'option communaliste et ruraliste de l'anarchisme, et après se met en place l'option syndicaliste, anarcho-syndicaliste. Donc je reviens juste sur ce plan-là pour qu'on se remette au niveau. Donc les polémiques qui vont... c'est intéressant, parce que les anarches ont beaucoup écrit, comme on le sait, ont beaucoup publié, et donc on peut suivre les débats dans leur presse, quoi, tranquillement. Et alors le grand débat avec le courant syndicaliste s'énonçait comme ça. Pour les communalistes individualistes, les grèves ne résolvent rien le problème social. Le salaire est le signe de l'esclavage du travailleur. Tant que le producteur doit vendre son travail, il ne peut exister de justice dans le monde, ni de paix, ni de bien-être. Ça, c'était en 1912. Un autre disait, quand nous aurons gagné, le syndicalisme, parce qu'on acceptait son existence, hein, bon, c'est entériné, mais le syndicalisme, quand nous aurons gagné, il aura terminé sa mission, puisque disparaîtra le régime du salariat qui lui a donné vie. Il faut qu'il n'y ait plus de corps de bureaucrates, et le syndicalisme, avec ses grandes organisations et ses grands centres de production et de consommation, rend nécessaire un grand réseau de fonctionnaires. Donc voilà, tout le temps, ils s'envoyaient les uns et les autres ce genre de constat. Dans le deuxième courant, lui, qui va évoluer jusqu'à la création de la CNT en 1910, eux se prononcent clairement pour l'action collective, hein, moins les actions individuelles de petits groupes, etc. Non, maintenant, c'est l'action collective qui va s'engager. Son outil, ce sera la grève générale, le sabotage, le boycott, comme moyen, et le syndicalisme révolutionnaire comme fin de l'émancipation ouvrière. Donc on est vraiment là en présence d'un syndicalisme inspiré des débuts de la CGT en France, hein, syndicalisme qui lutte normalement pour l'abolition du salariat, qui n'a pas, celui-là en Espagne en tout cas n'aura pas de permanent, et va poser effectivement tous les modes de lutte, la grève, mais pas que la grève, tous les modes de lutte, le sabotage, tout est possible dans cette bagarre-là. Et là, ce mouvement-là va rencontrer, effectivement, encore une fois, dans les villes, en tout cas, les gens qui se bagarrent dans les quartiers, hein, qui vont introduire aussi eux-mêmes s'affilier, se syndicaliser et multiplier les lieux de combat à l'intérieur de l'usine, de manière plus organisée dans l'usine, et continuer leur bagarre dans la rue avec les petits groupes d'affinités de quartier. Parce que tout ça, c'est une osmose. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a des syndicalistes là, des autres là. Non. Tout ça, ça se mélange. Des gens qui sont des groupes de quartier, c'est vraiment un phénomène magistral qui a duré très longtemps en Espagne. C'est des populations entières qui sont dans leur lieu de vie et qui vont le défendre d'une petite manière. Le logement, la bouffe, l'éducation, l'auto-éducation, l'auto-organisation, tout ça, les coopératives, la distribution. Si on peut, il y a tout ce processus-là qui est en germe de toutes les années jusqu'en 36, quoi. Tous les ans, il y a des groupes qui se forment, qui se défendent, qui subissent la répression. Mais tout ça, et puis il se bagarre aussi contre la garde civile, qui est aussi en ville, contre la police, qui essaie, de temps en temps qui essaie des incursions dans les quartiers. Quand ils font comme ils n'ont pas peur non plus de faire des attaques de banque ou attaques de magasins ou autres, les gens qui fuient la police se cachent dans les quartiers, ils sont sûrs que jamais personne ne les dénoncera. Il y a une relation de confiance profonde. Et vraiment très, très riche et qui permet beaucoup de choses. Donc la rencontre entre la CNT et ça va se faire, et ça c'est vraiment une réussite fantastique. C'est là que le mouvement anarcho-syndicaliste devient d'une puissance. Il y avait aussi un syndicat socialiste, l'ORT, qui était aussi puissante, hein, mais qui va se fixer plutôt à Madrid, qui était né aussi à Barcelone, dans le quartier de Raval, comme tout le reste du mouvement ouvrier, puis qui va partir à Madrid. Et donc Barcelone et la Catalogne deviennent le lieu de l'anarcho-syndicalisme par excellence. Et un lieu et d'une rencontre réussie entre la population et les militants.
Et du coup, ce qui fait que on est, enfin, dans les années qui vont précéder la guerre civile, donc de 1931 à 1936, il y a un niveau d'auto-organisation, d'intensité des luttes, même dans les campagnes d'ailleurs, les luttes des ouvriers agricoles qui sont fluctuantes en fonction des répressions.
Justement, parce que justement, malheureusement, la CNT va se... Enfin, malheureusement.
Ah oui.
La CNT, elle se développe vraiment maintenant en Catalogne, en milieu industriel. Et elle va favoriser les luttes urbaines. Et de fait, comme certains vont le déplorer au fil des congrès, en 1919 notamment, en 1931, on oublie les campagnes. Attention, nous les anarchistes, nous avons fondé notre espoir. On n'est pas comme les marxistes, on ne fonde pas nos espoirs que dans le prolétariat industriel. On fonde aussi nos espoirs dans le prolétariat paysan, rural. Nous, pour nous, il n'y a pas de préséance. Hein, voilà. Donc, il y en a qui le rappellent.
Il y avait toujours cette volonté, justement, de casser la distinction entre les campagnes et la ville. C'était voilà. Une idée qui était assez forte.
Et puis, surtout, ils estimaient que le mouvement paysan était aussi révolutionnaire, pouvait être aussi révolutionnaire que le monde ouvrier. Donc, ils le rappelaient. Et ils le rappelaient en le déplorant. Donc, c'est bien que ça perd des pieds. Et de fait, il y a un syndicat... Avant la création de la CNT, il y avait un syndicat agricole qui était né et qui, après, s'est fondu en 1918 dans la CNT. Donc tout ça, c'est l'activité de la CNT à ce moment-là est essentiellement urbaine.
Donc,
il y a plein de petits villages aragonais ou autres qui ne reçoivent pas. Il n'y a pas des tournées de militants comme ça se fait ailleurs dans les villes espagnoles. Il n'y a pas beaucoup de propagande qui leur arrive. Tout ça, ça s'atténue. Et certains l'auront tellement remarqué qu'en mai 36, quand la motion sur le communisme libertaire est adoptée, là, ça fait un grand mouvement d'enthousiasme. Et là, tous les militants sont dépêchés dans les campagnes pour rattraper le retard.
Ah d'accord. Donc du coup, le niveau d'intensité des luttes et d'auto-organisation dans les campagnes, et aussi parce qu'il y a tout aussi une éducation théorique, on parlait des autodidactes, des athénéos, des bibliothèques
collectives.
Mais
c'est plus fort en ville. Pendant les années 30, c'est surtout bien développé en ville.
Ce sont des sortes de lieux d'éducation populaire, en fait, hein, parce que comme l'éducation, justement, comme l'a dit Myrtille tout à l'heure, était contrôlée quasiment exclusivement par l'Église, il y avait des lieux de formation qui apparaissaient dans les villes et qui étaient des lieux de rencontre où on pouvait trouver des livres, rencontrer des gens, et, échanger, lire de la presse. C'était des lieux de formation. Et il existait des athénées qui avaient été créés par des socialistes, par des républicains, et également par des anarchistes. Donc chacun avait sa version des athénées. Et c'était un lieu de formation extrêmement important, en fait, pour tous les militants de gauche en général ou anarchistes.
Et surtout, comme le souligne Chris Elam, c'était des lieux où on organisait des excursions, des conférences, on discutait du naturisme, on discutait des droits de la femme et du scandale des rapports hommes-femmes, on discutait de plein de choses de manière très intense. Et lui faisait remarquer qu'on gardait encore là une culture ouvrière propre, alors que dans le reste de l'Europe, à ce moment-là, la culture de masse commençait à débouler, avec le sport, à partir du sport notamment. On voyait comment le temps libre des ouvriers, on essayait de l'occuper. C'était toujours l'inquiétude de la bourgeoisie. Que faire des ouvriers quand ils ne sont pas au travail et quand ils sont dans la rue? Il faut les contrôler. Et ce qu'ils ont essayé de faire à Barcelone, et là, ils ne sont pas arrivés. Il a fallu effectivement la guerre civile pour casser tout ça, quoi. Mais avant, il n'y arrivait pas.
Et du coup, il y a la situation qui débouche sur 1936, c'est des classes populaires, notamment en grande partie organisées par l'anarchisme, avec une conscience théorique qui est quand même, un niveau de maîtrise théorique qui est quand même assez important. Enfin, toutes les élaborations de l'anarchisme pagnol sont quand même assez, assez impressionnantes, avec des luttes qui sont très importantes, avec, une division de classe qui est particulièrement forte en Espagne, et de l'autre côté, des classes réactionnaires, les grands propriétaires terriens, l'Église, une grande partie de l'armée. Et du coup, ça explique finalement aussi que la République, les 5 années de la République sont finalement des années presque transitoires,
guerre sociale larvée,
quoi. Ouais, en 34, c'est ça, ouais.
Guerre sociale, la révolte sociale, toute une commune asturienne qui tient plus de 15 jours là-bas et qui n'est pas relayée au niveau national. Normalement, c'était un mouvement en octobre 1934 qui devait se propager un peu partout et qui s'est cantonné aux Asturies. Et la République, qu'est-ce qu'elle fait? Comme à Casas Viejas en Andalousie quelques mois avant, elle envoie la troupe coloniale. Enfin, surtout aux Asturies,
et qui
est à la tête de la troupe coloniale, le generalissimo, le futur generalissimo Franco, qui agit au nom de la République.
Ouais, bien sûr. Et du coup, ce qui fait que la République est à la fois les anarchistes ne se reconnaissent pas dans cette République. D'un autre côté, une grande partie des forces réactionnaires ne se reconnaissent pas non plus dans la République, ce qui va expliquer un peu la faiblesse en fait de la République en 1936, qui va se refortifier uniquement, bon ça on y viendra peut-être un petit peu plus tard, mais parce que justement les staliniens vont mettre tout...
Alors on peut être un tout petit peu plus précis, c'est-à-dire que en fait dans les années 20, c'est la période de la dictature de Primo de Rivera, hein, le père de José Antonio, le fondateur de la Falange, et donc dans cette période de dictature, qui n'était pas une dictature extrêmement féroce, mais enfin dictature quand même, la CNT avait été contrainte à la clandestinité. Donc là, son activité se réduit à quasiment rien. Il reste encore des groupes anarchistes, des groupes d'affinités clandestins qui arrivent à avoir encore un petit peu d'activité, mais c'est très très difficile. Et avec, en 1931, quand la République est proclamée, immédiatement, les syndicats ont la possibilité de se reconstituer. Et donc, évidemment, la CNT va se reconstituer. Et à ce moment-là, à l'intérieur de la CNT, il y a eu immédiatement, ou assez rapidement, deux tendances qui se sont fait jour entre celles qui voulaient collaborer avec la République, c'est-à-dire donner sa chance à la République. Par exemple, une personne comme Federica Montseny, qui va avoir un rôle important dans le mouvement, était sur une position comme ça. Et puis, de l'autre côté, en face, on avait les gens, par exemple, qui faisaient partie du fameux groupe Nosotros, avec Garcia, Oliver, Durruti, des gens comme ça, Francisco Ascaso, qui, eux, étaient partisans de foutre la merde au maximum, quoi. C'est-à-dire, enfin, c'est ce qu'on a appelé la gymnastique révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il fallait pousser les curseurs au maximum, jusqu'à ce que, pour exiger de la République, qu'elle donne le maximum qu'elle puisse donner, en sachant qu'on ne s'en contenterait jamais, quoi. Donc, effectivement, ils poussaient les affrontements au maximum.
Et ça c'est a posé... la tendance insurrectionnaliste.
Voilà, c'est une tendance insurrectionnaliste, mais pas que, hein, voilà, qui était surtout pour des combats sans négociation, quoi, en fait. Hein. On retrouvait ça dans beaucoup de combats où il ne s'agissait pas véritablement de revendiquer quelque chose. On pouvait poser des revendications, mais il n'y avait pas de négociation. C'était on gagnait ou on ne gagnait pas. Et éventuellement, on pouvait utiliser des moyens assez radicaux pour obtenir satisfaction. Ça, c'est, donc ça a créé, d'ailleurs tout à fait consciemment, ça a créé une situation de tension énorme parce qu'évidemment du côté de la droite, il y a eu une insupportation monumentale. Donc très très rapidement, il y a des velléités de putsch. Hein, il y a déjà eu une première tentative de putsch de Sanjurjo qui a échoué. Mais enfin bon, il y avait des secteurs militaires et de droite et d'extrême droite qui étaient extrêmement remuants et qui préparaient leur retour. Et en 1934, c'est la droite qui a gagné les élections. Et là, on a eu quasiment une espèce de pré-franquisme, de première période franquiste. Hein. On appelait ça le Biennio Nero. C'était les deux années noires hein, qui étaient absolument affreuses. Et là, il y a eu une répression terrible. Et la CNT, et pas que la CNT, a presque été renvoyée à une espèce de nouvelle clandestinité à ce moment-là. Ouais. Et par exemple, dans les campagnes, en Aragon, qu'on connaît un petit peu plus, il y a des syndicats CNT qui avaient été relativement puissants Donc même dans certaines campagnes, hein, c'était très localisé, mais bon, c'était pas généralisé, mais ça existait. Hein. Par exemple, à Pina de Ebro, un village qu'on a bien étudié parce que c'était là que notre Jiménez s'était retrouvé avec le groupe international. Il y avait en 32-33, il y avait à peu près 500 personnes qui étaient organisées dans la CNT localement. Et quand en 34, la droite est arrivée au pouvoir, pour se planquer, la plupart des cénétistes soit ont disparu dans la nature, soit se sont affiliés à l'UGT, qui était le syndicat socialiste qui était beaucoup plus toléré.
Très répandu dans les campagnes.
Et qui était beaucoup plus répandu dans les campagnes. Et dès qu'en 1936, la révolution a éclaté, hop, immédiatement, la CNT renaît de ses cendres.
Dès mai 36, quoi. Voilà. Dès mai 36, hop, les campagnes sont de nouveau réinvesties, agitées, ça circule, ça fait des débats, ça fait des... La militance, la propagande se répandent à nouveau. Quoi.
Et c'est ce qui est très intéressant à observer. Alors évidemment, on ne peut pas vraiment l'étudier, mais ça permet de toucher un peu du doigt cette question du rapport entre la préparation et la spontanéité. Parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à trancher. Certains pourraient croire qu'il y a eu quelque chose de spontané qui s'est effectué, qui est apparu à ce moment-là. D'autres pourraient croire qu'au contraire, c'est un long travail militant et de propagande qui a permis qu'éclose la révolution. Et en fait, c'est un mélange des deux. Par exemple, qui était un militant aragonais, a étudié ça, il a donné son témoignage là-dessus, et puis il a mis le doigt sur le paradoxe que les Aragonais étaient plutôt connus pour être des individualistes têtus et pas tellement portés à la collaboration avec les voisins. Le soutien, la solidarité n'était pas très très répandu chez les Aragonais, et pourtant c'est eux qui ont fait les plus belles collectivités de l'histoire des hommes, quoi. Et c'est parce que, selon lui, il y a quand même une rencontre qui se fait entre le caractère effectivement un peu borné des paysans du cru et un travail de préparation par les militants de la CNT. Et là, effectivement, lui, il nomme essentiellement les militants de la CNT qui ont eu cette...
Et bon, et avant d'en arriver à juillet 36, un dernier point qu'il faut aborder pour comprendre la suite, pour mieux comprendre la suite, c'est qu'il se passe, la CNT continue son bonhomme de chemin en tant que syndicat révolutionnaire. Et au fil des congrès, en scrutant un peu de près les dictamens des résultats des congrès, on voit qu'il y a des choses qui évoluent. En 19, il était question d'abolition du salariat, il était question que le syndicat soit juste un outil pour arriver à cette fin-là. Et en 31, on en est à parler que le syndicat, qui était un outil, maintenant pourrait préfigurer la société à venir. C'est-à-dire pour être central dans l'organisation sociale de la société à venir. Ce qui est encore un cran de plus vis-à-vis de l'anarchisme, du premier anarchisme. Hein, c'est-à-dire que si on maintient le syndicat dans la société post-industrielle, post-capitaliste, pardon. Et au contraire, on organise des fédérations d'industrie. Hein. C'est-à-dire, celle-là, c'est toujours un fédéralisme, mais des fédérations d'industrie. On ne parle plus trop des campagnes.
Et du coup, oui, c'est sur la trajectoire idéologique de la CNT qui est incarnée un peu par Diego Abad de Santillane.
Entre autres.
Voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de cette trajectoire? Parce que on a... Enfin, pas mal d'historiens anarchistes et libertaires et de militants ont véhiculé l'idée que, en fait, toute la CNT était unie derrière l'idée du communisme libertaire qui devrait être réalisé, qui devrait être prioritaire.
Tous comme un seul homme derrière.
Tous comme un seul homme derrière en 36. Et alors que, en fait.
C'est pas tout à fait comme ça. Nous, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé, effectivement, dès juillet 36, pourquoi il y a une sorte de mouvement régressif par rapport à ce projet communiste libertaire. Et on entend souvent dire, c'est les circonstances, la guerre, tout le pays n'était pas en main, on ne savait pas trop ce qui se passait dans les autres provinces, il fallait parer au plus pressé, il fallait garder l'unité antifasciste, etc. Mais bon, les circonstances, on a eu l'impression qu'en fait, ce n'était pas que ça. Puisqu'on voit évoluer le syndicalisme révolutionnaire, l'anarcho-syndicalisme, au fil des années 30. Et cette évolution s'incarne effectivement chez les quelques théoriciens du mouvement libertaire. Il y a par exemple Joan Peiro, qui entre les deux congrès de 31 et 36, puisque les polémiques ont repris énormément entre 31 et 36, lui, il pose carrément « À la concentration du capitalisme doit correspondre celle de la force du prolétariat. Le syndicalisme est industrialiste dans la mesure où il se voit obligé d'adapter ses comportements aux coordonnées technologiques et économiques du système auquel il veut succéder. » Déjà, pour certains, ça pose problème. Il y a un mec qui lui répond « La lutte que les travailleurs ont engagée ne se limite ni ne circonscrit à une amélioration immédiate ou progressive de type industrialiste. Elle est plutôt résolument révolutionnaire et négatrice de l'ordre bourgeois capitaliste. Par ailleurs, nous ne pouvons nous baser sur la structure économique bourgeoise, ni nous adapter à elle, ni aller à sa remorque. En tant que révolutionnaires, nous devons subvertir ses valeurs. » Donc voilà vraiment deux façons de voir à peu près antinomiques. Et un de ces partisans avec Peyrot d'un éloignement de l'anarchisme ira jusqu'à dire en mai 1933 « Le syndicalisme a fait une révision des valeurs de l'anarchisme. Ce dernier doit convenir que l'homme de ses réalisations n'existe pas et que l'organisation de la société ne peut être celle qui fut conçue avant la révolution industrielle. » Donc voilà, c'est une position résolument moderniste, donc il faut aller avec son temps et il faut peut-être en finir avec tout ce qu'on a projeté avant. Et comme tu disais, cette bascule entre deux options, la plus fondamentale liée à l'anarchisme classique et celle qui est liée à un syndicalisme révolutionnaire ou qui va poser le syndicat comme instance pour gérer la production, elle va s'incarner dans le personnage de Abad de Santillán, un intellectuel qui était revenu d'Argentine au début des années 30 et qui avait incarné complètement la position ruraliste jusqu'à 32-33. Alors, par exemple, en 33, il disait « Ceux d'entre nous qui aimons la liberté ne sommes pas seulement ennemis du fascisme étatique, mais également du fascisme économique. Et cela n'est pas différent en Russie, où on nous assure qu'on gouverne au nom du prolétariat. Et cela sera la même chose sur le terrain économique le jour où on nous dira que l'oppression industrielle, l'annihilation de l'individu dans l'appareil de production, se font au nom du syndicat, de la fédération ou de la confédération. » Donc on voit, c'est clair et net. À partir de 32-33, il commence à changer d'attitude. Il estime que le capitalisme est en train de s'écrouler, que ce sont les organisations ouvrières qui vont devoir prendre le relais. Et là, il décide qu'il faut changer de tactique et de fondamentaux. Et là, il se met à étudier un développement économique possible en Espagne, comment on va procéder, les ressources, les hommes. Vraiment, il raisonne en parfait d'économiste. Et il écrit « L'industrie moderne est un mécanisme qui a son rythme propre. Le rythme humain ne détermine pas celui de la machine. C'est celui de la machine qui détermine celui de l'homme. L'usine continue son travail à son propre rythme. Si on part du lieu de travail, les communes autonomes sont superflues. Le localisme économique est passé, et il doit passer, là où ce n'est pas encore fait, au musée des Antiquités. L'organisation de l'usine et non de la commune libre, ni le groupe d'affinité, doit être le noyau de la société anarchiste future. » Voilà, écrit ça, effectivement, ça jette un gros, gros froid parmi les partisans de la commune rurale, etc. Et le coup de grâce est ainsi donné à tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, tout ce qui développait une culture anticapitaliste, un rapport au temps, un rapport entre les gens, un rapport à la vie concrète, etc. Tout ça est balayé magistralement par ces propos-là. Il nous semble qu'il règne dans nos milieux libertaires un peu de confusion entre ce qui relève de la convivialité sociale, le regroupement par affinité et la fonction économique. Les vieilles visions sur les communes libres agissent sur la mentalité de certains camarades. Mais l'avenir est complètement autre. À l'usine, nous ne recherchons pas l'affinité comme dans le couple ou dans l'amitié. En l'usine, ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est notre collègue ouvrier qui connaît son boulot et l'exécute sans créer de difficultés inhérentes à l'inexpérience ou à l'ignorance du fonctionnement de l'ensemble. Voilà, donc là, ça touche au profond. Le groupe d'affinité, il touche au groupe d'affinité. Pour lui, ça n'a plus de... C'est ce qui se passe sur le lieu de travail qui a la seule importance à prendre en considération.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit Santillán exprimer d'une certaine façon et assumer le passage de la subsomption formelle à la subsomption réelle du capitalisme. C'est pratiquement en toutes lettres, quoi. Il assume effectivement ses exigences. Il comprend effectivement qu'il y a un mouvement irrépressible. Enfin, lui, voilà, il le voit comme ça. Visiblement, ça veut dire qu'il renonce à toute idée qu'on puisse empêcher ce mouvement-là de s'effectuer. En tout cas, il n'imagine pas autre chose. Il n'imagine pas de sortie du capitalisme dans la forme formelle que connaissait l'Espagne à ce moment-là. Et donc, il a, en fait, finalement, il propose à l'anarcho-syndicalisme espagnol et pas seulement, hein, évidemment, dans une alliance aussi avec les socialistes, d'assumer un rôle de modernisation pour passer finalement à une modernisation de rattrapage, comme on a pu le connaître dans d'autres pays européens qui étaient en retard sur l'Angleterre, comme on a pu le voir en Allemagne s'effectuer assez rapidement, ce qui a mené au nazisme. Et puis, bon, on la voyait à peu près à la même époque en France, où elle s'était déjà effectuée depuis une trentaine d'années dans des conditions plus pacifiées.
Oui, effectivement, c'est ce qui le tournant qu'on observe dans l'anarcho-syndicalisme donc dans cette de 31 à 1936, enfin à peu près dans la première moitié de la décennie des années 30, c'est un petit peu celui qu'on a pu observer en Angleterre, mais beaucoup plus tôt dans les années 1830-1840. Où, par exemple, on s'attaque aux machines, on essaye de, où il y a des tentatives de grève générale, où on veut créer une autre société qui fonctionne selon d'autres principes, à un mouvement, voilà, ouvrier classique de type revendicatif, qui ne remet plus en cause la société capitaliste, mais qui demande simplement un autre partage de la valeur. Et du coup, c'est effectivement ces transformations idéologiques de la CNT qui sont peut-être liées un petit peu au mouvement lui-même du capitalisme industriel en Espagne, qui vont expliquer à côté de premières réflexions un peu d'ordre plus stratégique à partir de 1931, avec toute une tendance de Frédéric Amundsen qui pense qu'il faut ménager la République et tout ça. C'est à la fois cette transformation idéologique, ce côté il faut faire avec la société industrielle et capitaliste, mais et d'un autre côté, bon, finalement, il faut faire avec l'État républicain. C'est toutes ces tendances qui vont qui vont expliquer ce qui va se passer pendant la guerre civile et dont on va parler juste après une première pause musicale.
Voilà.